C'est une joie pour moi de partager la parole avec vous, doublement parce que j'ai passé toute la semaine à me demander si je serai avec vous ce matin. Et le Seigneur m'a fait grâce. Que son nom soit béni. On va introduire ces moments avec en vous disant que je continue une étude que j'ai commencée depuis le mois de septembre, qui s'intitule Au plus près de Dieu. Vous êtes au courant? Voilà. Ceux qui n'ont pas pu suivre tous les épisodes, vous pouvez, et je sais que vous l'avez déjà fait, les écouter sur le site, hein. Vous pouvez même télécharger les prédications pour les écouter dans votre voiture ou ailleurs. En introduction, je voudrais faire les rappels des deux premières études que nous avons faites. Le texte qui nous conduit dans cette étude est le suivant. Il se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Versets 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, approchons-nous donc avec un cœur sincère du trône de Dieu dans le sanctuaire. J'ai oublié de mettre la suite, c'est pas grave. Voilà, vous connaissez ce texte. Nous avons vu que c'était quelque chose d'extraordinaire que de considérer que nous pouvons entrer dans le lieu très saint. C'est ce qui est appelé le sanctuaire par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Chose qui n'était pas possible pendant des millénaires, qui était impossible à l'homme. Hein, si ceux qui ont vécu à cette époque nous voyaient aujourd'hui, ils diraient: Oh, mais non, mais c'est pas possible. C'est vrai, hein? On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et. Je le disais encore, je m'en entretenais avec les détenus à la prison hier matin. Je leur disais, ceux qui ne pouvaient pas rentrer, ils disaient, oh, qu'est-ce que j'aimerais rentrer? Et maintenant que la porte est ouverte, est-ce qu'il y a un engouement fou pour y entrer? C'est une question que je me pose. Alors, parmi les non-chrétiens, pas du tout, bien sûr, mais est-ce que parmi les chrétiens, c'est le cas? Nous avons vu que dans le temple, si on devait dresser un temple aujourd'hui, il n'y aurait que le lieu très saint. OK? Parce que nous avons vu dans la première étude que nous n'avons plus rien à faire ni sur le parvis, ni même simplement dans le lieu saint. Le Seigneur nous appelle au-delà, dans le lieu très saint. La deuxième étude que nous avons faite, elle était basée sur le texte de 1 Corinthiens, chapitre, 2 Corinthiens, pardon, chapitre 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Vous vous rappelez de cette étude? Alors, on a vu quatre points. Le premier, c'est qu'il n'y a plus de voile, donc on peut entrer, le visage découvert. C'était une référence, ce texte est une référence à ce qui se passait avec Moïse lorsqu'il est redescendu de la montagne et qu'on ne pouvait pas le regarder tellement il avait le visage qui rayonnait. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que nous sommes appelés dans ce face-à-face avec Dieu, nous sommes appelés à le contempler. Et là, tout le monde dit Amen. Je suis sûr, j'aurais dit, on est amené à le prier et recevoir la victoire, tout le monde aurait fait Amen. Mais si vous dites, on est là pour le contempler, ça suscite moins d'engouement. Et je me permets de rappeler un texte extraordinaire que nous avons lu. C'est le psaume 27,4. Je demande à l'Éternel. C'est David qui fait cette prière alors qu'il est au sein de l'épreuve, justement. Il est au sein des difficultés. Il ne dit pas Seigneur, délivre-moi. Il ne dit pas Seigneur, combat mes ennemis. Il affirme d'ailleurs que c'est ce que le Seigneur y fait. Il l'affirme dans les versets précédents. Mais il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. Troisième point qu'on a vu, c'est que dans ce face-à-face, nous sommes transformés à son image. Qui veut changer? Qui a besoin de changer et voudrait changer? Ressembler davantage à Christ. Amen. Tout le monde n'a pas levé la main, c'est extraordinaire ça. Le seul moyen, c'est le face-à-face. Ce ne sont pas mes efforts, ce n'est pas ma religiosité, ce n'est pas ma connaissance biblique, c'est le face-à-face. Amen. transformé à son image. Et puis le dernier point, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Nous devons demander au Seigneur de nous remplir de son Esprit. Enfin, qu'il change nos mentalités. Ma chair ne me pousse pas à aller dans le lieu très saint. Et quand par hasard, avec ma volonté, j'ai réussi à y aller jusque-là, qu'est-ce que je vais y faire ? Est-ce que je vais y faire les bonnes choses ? Est-ce que j'y vais pour contempler Dieu ? On a vu les bienfaits, on a vu le premier bienfait la dernière fois, c'est cette transformation que nous pouvons vivre. J'aimerais vous dire un des deuxièmes bienfaits d'être au plus près de Dieu, c'est que lorsque je suis au plus près de Dieu, je peux l'entendre me parler. C'est d'une logique implacable. Hein. Si on est près de quelqu'un, avec l'âge, je commence à perdre un peu. Si quelqu'un est loin et me parle, c'est un peu compliqué. Si je suis auprès de quelqu'un, je l'entends. Oui ou non ? Je l'entends me parler. On va lire un texte que vous connaissez bien. Et peut-être vous allez avoir un regard encore nouveau sur ce texte ce matin, même si vous avez entendu des dizaines de prédications sur ce thème. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Je vous propose qu'on regarde ce texte dans le détail. J'ai été un peu travaillé toute cette semaine parce que je voyais à faire des parallèles avec l'Ancien Testament, etc. Et jusqu'à hier soir encore, le Saint-Esprit me dit « Sois simple, sois simple. » Et je voudrais juste qu'on voit d'abord l'attitude de Marthe et l'attitude de Marie. Ce n'est pas très original comme plan. Mais je pense qu'il sera simple et efficace. Voyons d'abord Marthe, cette chère Marthe, la pauvre. Elle doit avoir les oreilles qui sifflent, hein. Je ne sais pas si elle nous entend. Mais depuis le temps, avec tout ce qu'on dit sur elle. Mais en fait, Marthe, c'est nous. Hein. Elle nous ressemble tellement. En tous les cas, je lui ressemble tellement. On va voir trois points sur l'attitude de Marthe. D'abord que Marthe, c'est l'image de quelqu'un qui reçoit Jésus dans son cœur, mais qui ne lui accorde pas la place qui lui est due. Luc chapitre 10, verset 38, nous l'avons lu. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle le reçoit chez elle. Il est là dans les murs. Moi ! Non, c'est toujours pas d'enthousiasme ici à Colomiers. Jésus est rentré dans ta maison, ça te fait ni chaud ni froid, c'est pas grave. Marthe a la chance d'avoir Jésus dans sa maison. C'est un acte merveilleux de recevoir Jésus dans sa maison. Hein, je pense à Zachée à chaque fois que je parle de Jésus dans sa maison. Hein, je pense à Zachée qui a accepté que Jésus rentre dans sa maison et combien il a bien fait. Changement, on a parlé de changement, mais lui, il l'a vécu. Hein. Jésus est effectivement bien là dans la maison, mais pour autant, est-ce que Marthe est au plus près de lui ? Donc on peut recevoir Jésus, on peut dire, voilà, Jésus, je t'ai accepté dans ma vie, il est là dans ma vie, mais pour autant, ne pas vivre au plus près de lui. Elle est peut-être un peu trop occupée, Marthe. Ici, c'est très subtil d'ailleurs qu'elle n'est pas occupée à faire des choses vaines. Elle est occupée à préparer les choses pour bien accueillir Jésus. Et l'hospitalité dans le Moyen-Orient, c'est quelque chose. Et donc, quand on a quelqu'un, il faut bien le recevoir. Et alors, on va mettre tout en œuvre pour bien le recevoir. Le problème, c'est qu'elle s'occupe de Jésus, mais elle ne prend pas le temps de réellement s'approcher et s'intéresser à lui. Est-ce que c'est bien de s'occuper de Jésus ? Mais ce n'est pas ce à quoi nous sommes appelés. Vous croyez que Jésus a besoin qu'on s'occupe de lui ? Vous voulez prendre soin de Jésus, mes frères et sœurs ? Moi, je voudrais qu'il prenne soin de moi. Mais pas que. Je voudrais surtout m'intéresser à lui. Et en fait, le diable, il est fort, c'est subtil tout ça. Et le diable, il est fort pour nous occuper même à des œuvres spirituelles de toutes sortes. Et à remplir tellement notre emploi du temps de services spirituels, de choses qu'on fait pour s'occuper de Dieu. Parce que si jamais on ne s'occupe pas de tout ça, eh bien Dieu ne va pas y arriver sans nous. Mais d'accord avec ça, Dieu ne peut pas se débrouiller sans nous, non ? Ah bon, il y en a qui suivent quand même. Et on se fait piéger. Parce que pendant ce temps-là, on n'est pas au plus près de Dieu. On ne fait rien de mal, mais on est dans le péché. Le péché, ça veut dire manquer le but. L'objectif du Seigneur, ce n'est pas que nous passions du temps à nous occuper de ses œuvres, mais c'est surtout que nous prenions le temps de nous tenir au plus près de lui. Amen. Deuxième chose, c'est que Marthe, c'est le symbole justement du piège de l'activisme. Jésus est bien là dans la maison, mais je suis trop occupé pour prendre le temps de l'écouter. Est-ce que nos cultes personnels sont réellement des cultes personnels où l'on prend le temps d'être auprès de Dieu? Ou est-ce que nos cultes personnels, c'est vite fait, je lis mon petit verset du jour, la pensée, le trésor quotidien où j'en passe, et vite je cours au travail. Ouh, je suis en retard. Mais j'ai passé un temps avec le Seigneur. Hein. J'ai eu mon culte personnel. Ça ou rien, excusez-moi de vous le dire, hein, c'est pareil. Jésus est bien là dans notre maison, mais il n'est pas dans notre emploi du temps où il y est très peu. Certains commentateurs ont essayé, j'ai lu, j'ai même entendu des prédications, où on essayait de dire comme Marthe, c'est bien ce qu'elle faisait. On ne va pas quand même casser du sucre sur le dos de Marthe. Et certains même qui disent, mais tout en faisant ce qu'elle faisait, elle écoutait aussi Jésus. Mes frères et sœurs, Dieu mérite une attention exclusive. On est d'accord ? Dieu mérite une attention exclusive. Et je m'arrête là-dessus parce qu'on est dans une société extraordinaire aujourd'hui. On est capable de regarder la télé, regarder ses textos, ses mails sur portable, discuter avec ses enfants et faire tout un tas de trucs en même temps. Vous n'avez pas remarqué ? On devient des dingues maintenant. On devient des dingues. Et même quand on fait qu'une seule, moi je me surprends même, quand on fait qu'une seule chose, on cherche. C'est fou, hein ? On ne doit pas tomber dans ce piège-là. Dieu mérite une attention exclusive. Dans l'Ancien Testament, Dieu se déclare comme un Dieu jaloux. C'est pas bien d'être jaloux ? Mais est-ce que Dieu a le droit d'être jaloux qu'on ne le mette pas à la première place ? Qu'on le mette au même niveau que les autres ? Attention à ce sentiment qui peut nous envahir quand on sert dans l'œuvre de Dieu, c'est celui d'être indispensable. Celui de penser que si on n'est pas là, les choses ne vont pas bien se passer. Que le Seigneur nous garde de tout ça. Parce que tout cela part d'une bonne intention, mes frères et sœurs. Tout cela part d'une très bonne intention. De vouloir prendre soin de l'œuvre de Dieu, de l'Église, des services auxquels nous sommes attachés. Mais attention, tout est une question d'équilibre, comme on dit. Et l'équilibre, c'est de mettre Dieu en premier. et de ne jamais faire quoi que ce soit en sacrifiant les temps de culte personnel, les temps où on est au plus près de lui pour l'écouter. Amen. Et puis le dernier point, c'est Marc, c'est l'image de quelqu'un qui prie en étant centré sur elle-même. Donc c'est valable pour Marthe, qui est une femme là ici en l'occurrence, mais ça peut être la même chose pour un homme. Hein. La première chose qu'on voit, c'est qu'elle est centrée sur ses besoins, ses difficultés présentes. On voit au verset 40, Luc 10, 40, « Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Elle est centrée sur elle. « C'est moi qui fais tout le boulot, les autres ne font rien. Moi, 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 moi. Bon, » déjà, si tu fais le boulot pour le Seigneur, fais-le avec joie. Parce que si tu le fais en râlant parce que c'est toi qui fais tout, ça perd sa valeur, non, vous ne croyez pas? On doit éveiller, là, je me parle à moi-même. Hein. Seigneur, tu ne vois pas tout le travail que j'ai à faire. Seigneur, tu ne vois pas l'injustice que je subis. Mais Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Ça, c'est la prière centrée sur soi. Deuxième chose qu'on voit aussi, c'est qu'elle est tellement centrée sur soi qu'elle se met à donner des ordres au Seigneur. Elle lui dit ce qu'il doit faire. Toujours au verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider !»« Seigneur, mais enfin, quand même, elle est assise là devant toi et tu réagis même pas. » Sauf que Jésus est content que Marie puisse l'écouter. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, qu'elle prenne le temps de l'écouter. Il n'est pas venu pour manger, pour boire, pour être reçu à des tables. Il est venu pour délivrer un message et pour qu'on l'écoute. Et c'est Marie, on va le voir, qui a choisi la bonne part. Mais franchement, n'aurions-nous pas tous analysé la situation avec les yeux de Marthe? Hein? C'est bien beau de lui tirer à balles réelles. Pam, 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 Marthe. Mais en fait, c'est moi. Hein? C'est moi que je vois quand je vois l'attitude de Marthe. Elle n'est pas au plus près de Dieu. Et le seul moment où elle s'approche un peu de Dieu pour venir lui parler, c'est pas vraiment la bonne attitude qu'il faut avoir. Elle vient pas contempler Jésus. Elle n'a pas entendu la prédication de la dernière fois. Elle vient pas pour l'écouter. C'est elle qui parle. En fait, la question ce matin, c'est la suivante. Quand nous venons au plus près de Dieu, est-ce que nous laissons Dieu nous parler? Est-ce qu'on a une bonne écoute? Parce que si je fais autre chose en même temps, oh moi, j'ai eu des discussions, je me souviens d'une réunion de jeunesse au minimum il y a des années de cela, où on m'avait invité, je n'étais pas pasteur encore, où je venais juste de devenir pasteur, je ne me souviens plus, c'était peut-être au début de mon ministère. Et où on m'avait posé cette question, mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir des cultes personnels? Parce qu'en fait, moi, je suis, c'est une jeune fille qui me disait ça, elle me disait, mais moi, je suis toujours connecté avec Dieu, toute la journée. Formidable. Déjà, je me suis dit, elle est forte. Parce que oui, dans l'absolu, nous sommes tout le temps connectés avec Dieu. Dieu est là, il est présent. Même si parfois nous sommes occupés à nos affaires, on ne pense pas à lui, il est là. Bien sûr, là-dessus, je suis d'accord. Mais est-ce que toute la journée, mes pensées sont centrées sur lui? Soyons honnêtes, mes frères et sœurs. Mais et est-ce que Dieu nous le reproche? Pas du tout. On est encore ici-bas sur terre et on a des choses à faire. Quand on sera au ciel, je pense qu'on pourra le vivre, tout ça. La connexion absolue. Ça va être génial. Mais c'est pour cela que j'ai besoin, à certains moments, de me déconnecter justement du monde pour être connecté uniquement avec le Seigneur. Est-ce que j'écoute bien quelqu'un quand je suis en train. Vous êtes en train de parler à quelqu'un et vous voyez qu'il est en train de bricoler un truc, machin comme ça. Vous avez le sentiment d'être écouté? Vous avez le sentiment d'être écouté quand la personne, elle s'arrête, elle s'assoit, elle se met à côté de vous, elle vous regarde et puis. Vous avez le sentiment qu'elle prend en compte ce que vous êtes en train de lui dire. Et si nous, on aime ça, alors je crois que Dieu, il aime ça aussi. Est-ce qu'on a une bonne écoute quand on est loin de quelqu'un? Non. Marthe se tenait à distance, Marie était au plus près. Amen. Et on en vient justement à Marie. Marie qui devient le personnage principal de l'histoire, alors que ça aurait dû être Marthe, hein, au début. Au début, il est dit Marthe reçut Jésus. Ça commence comme ça. On se dit, ben voilà, on va nous parler de Marthe. Mais en fait, non. C'est Marie qui prend la première place parce qu'elle, elle ne brasse pas de l'air. Elle ne s'agite pas dans tous les sens. Elle choisit la bonne part. Luc 10, 42, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. En fait, Marthe a reçu Jésus dans sa maison, mais Marie, qui est sa sœur, qui vit sous le même toit, c'est elle qui le reçoit véritablement. Parce qu'elle s'assoit à ses pieds pour écouter ce qu'il a à dire. Elle a compris que Jésus n'est pas venu là pour qu'on prenne soin de lui, qu'on s'agite, qu'on lui fasse tout un tas de choses pour lui faire plaisir. Mais il est venu parce qu'il a un message à communiquer. Et il partage la bonne nouvelle. J'ignore s'il n'y avait que les deux femmes dans la maison. Peut-être Jésus parlait à d'autres personnes aussi et que Marie, elle était venue vraiment se mettre à ses pieds pour écouter, on ne sait pas. Mais en tous les cas, Marie est à la bonne place. En fait, quand on réalise combien Dieu est grand et glorieux, quand on s'approche de lui, la seule chose qu'on a envie, c'est de l'écouter. C'est de savoir ce qu'il veut nous dire. Non, vous n'avez pas envie? On m'a envoyé ces derniers jours un lien vidéo avec un ancien président de la République, à qui on a demandé qui c'est que vous voudriez avoir comme conseiller. Si on dressait une table et on vous demande d'avoir un conseiller à votre table. Alors j'étais étonné parce qu'il a dit Jésus et lui tout seul. Alors c'est dans le même interview, il dit qu'il croit pas. Mais en fait, il considère que dans l'histoire de l'humanité, Jésus est quelqu'un qui a été extraordinaire, puisque il y a encore des milliers de gens qui parlent de lui et qui le suivent. Donc c'est quelque chose qui l'impressionne et il se dit, ben, si ce gars-là, excusez-moi l'expression, il a pu avoir un tel aura, une telle aura, ben, j'aimerais parler avec lui, moi. J'aimerais qu'il me dise un peu ce que je dois faire. Il a bien raisonné en cela, bon, mais le problème, c'est que juste un raisonnement intellectuel. Mais je crois que ça doit naître dans nos cœurs. Si on réalise qui est vraiment Dieu, est-ce qu'on n'a pas envie d'aller lui parler et de recevoir son conseil? Peut-être la différence entre Marthe et Marie, elle est là. C'est que Marthe n'avait peut-être pas encore réalisé, on ne peut pas lui reprocher. Jésus n'est pas encore mort sur la croix, il n'est pas ressuscité, etc. Donc encore beaucoup se posent la question, c'est qui ce Jésus? Est-ce que c'est un grand prophète ou est-ce qu'il est plus? Et sans doute que bah, ce n'était pas clair encore dans la tête de Marthe, alors que dans la tête de Marie, c'était clair. Et elle savait où elle devait être, à ses pieds, pour l'écouter. Mes frères et sœurs, le bienfait d'être au plus près de Dieu, c'est qu'on peut entendre sa voix nous parler. Quelle chance, quel privilège. Combien disent j'aimerais entendre Dieu me parler? Combien viennent nous voir, pasteur, est-ce que vous avez une parole pour moi de la part de Dieu? Mais c'est au pied du maître que tu vas entendre la parole qu'il veut te donner. Amen. Marie n'a pas ouvert les rouleaux de l'Ancien Testament pour savoir le conseil de Dieu. Elle est venue au plus près de lui. Bien sûr qu'on peut, nous avons le privilège aujourd'hui de pouvoir entendre Dieu en lisant sa parole. Et je vous invite à le faire. Parce qu'une bonne manière d'écouter Dieu, c'est de méditer sa parole. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, c'est vraiment le moment où je me mets à l'écoute de Dieu. Parce que quand je prie, c'est moi qui parle. Hein. Non, pas vous. J'essaye. Comme je prêche et je me prêche à moi-même, j'essaye de passer des temps à contempler Dieu. Mais combien sont riches les temps où on médite sa parole, où personnellement on étudie la parole et on demande à Dieu de nous parler au travers d'elle. Et c'est pas réservé aux pasteurs, ça. C'est chacun d'entre nous qui devons le faire. Vraiment chercher Dieu au travers de sa parole. Et puis aussi, être toujours à l'écoute. Être toujours à l'écoute de Dieu. Dieu peut nous parler à tout moment. Il y a les dons spirituels, il y a la prédication de ce matin, il y a eu les chants. Peut-être pendant les chants, Dieu a parlé à quelqu'un, etc. Dieu nous parle, soyons à l'écoute. Mais c'est bien des moments de tout laisser pour se mettre totalement à l'écoute. Je pense à l'attente qui a été dressée par Moïse au milieu du peuple après l'épisode du veau d'or. Dans un temps difficile, je pense pour Moïse, ça a dû être très compliqué. Et j'en arrive à ma conclusion, où je veux rappeler une chose qui est dite dans le texte de Luc, une seule chose est nécessaire. Ce que dit Jésus. Une seule chose est nécessaire. Est-ce qu'on a bien compris ça? Une seule chose est nécessaire. Se mettre aux pieds de Jésus pour l'écouter. C'est dans le texte que nous avons lu en introduction. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dans le livre de l'Exode, nous voyons que Moïse... Et on lit le texte dans Exode 33, 7 à 11. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel, écoutez bien, parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. L'Éternel veut nous parler face à face. Et il veut nous parler comme un ami. Amen. C'est quelque chose à laquelle nous sommes appelés. Juste avant, c'est le veau d'or. Pas glorieux, hein, dans l'histoire du peuple. Nous avons entendu une prédication il n'y a pas longtemps là-dessus. Et en fait, Moïse et Aaron, ce sont deux frères, comme Marthe et Marie étaient deux sœurs. Et on retrouve le même exemple. Moïse qui est au plus près de Dieu pour l'écouter. Il est sur la montagne. Et Aaron qui s'inquiète et s'impatience. Et du coup, il va écouter le peuple au lieu de se mettre à l'écoute de Dieu. Si on n'est pas au plus près de Dieu... Pour écouter sa voix, c'est d'autres voix qui vont nous parler et qui vont nous influencer. Et en fait, Aaron s'est senti obligé de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On ne sait pas attendre. Les moments de silence, ça nous énerve. Hein. Surtout nous, les pentecôtistes. Ah, c'est silencieux. Oh, il faut remplir. Non, mais des fois, c'est bien que ce soit silencieux. Alors, je ne parle pas des silences où c'est pesant, où tout le monde est en train de dormir. Je ne parle pas de ça. Je parle des moments où Dieu veut trouver une place. Je vois des églises émerger de plus en plus où il y a beaucoup de louanges, beaucoup de musique, beaucoup de bruit, et il n'y a plus de dons spirituels. C'est une catastrophe. Parce que c'est au sein de l'église, c'est écrit dans l'Épître aux Corinthiens, que ces choses s'exercent. Premièrement, bien sûr, pas exclusivement. Que le Seigneur nous donne d'avoir cette patience. Le fait que Moïse ne donne plus signe de vie, le fait qu'il ne se passe rien, alors on se croit obligé de faire quelque chose. Et ils vont faire une grosse bêtise. Ils vont dire, allez, on va adorer le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Donc pour l'adorer, ils vont se faire un veau d'or. Comme ils étaient un petit peu influencés par la culture égyptienne, ils se sont dit, comment on pourrait représenter ? Ils ont pris un animal. Ce qui est courant dans la culture, vous savez que les Égyptiens étaient polythéistes et il y avait des animaux qu'ils adoraient. Dans 1 Samuel 15, 22, il est dit ceci. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, écoutez bien, parce qu'on s'arrête toujours là. On s'arrête toujours. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et hop, on s'arrête. Regardez ce qu'il dit ensuite. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance à l'écoute, ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphèmes. Et là, c'est une parole qui est adressée à Saül. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Aïe. Eh oui. Comment puis-je lui obéir si je ne prends pas le temps de l'écouter ? Bien sûr, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce que dit la Bible, on doit être honnête, on ne doit pas mentir, on ne doit pas commettre l'adultère, on ne doit pas tuer. On connaît tout ça. Mais moi, je veux vous amener plus loin ce matin. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie personnelle ? Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Qu'est-ce qu'il attend de toi chaque matin lorsque tu te lèves ? Quel est le programme de Dieu pour toi ? Est-ce que tu t'en soucies ? Où est-ce que tu mènes ta vie ? Ah, je vais au boulot, mais trop boulot dodo, comme on dit. Pour s'en soucier, il ne faut pas juste dire, oh, Seigneur, ce serait bien que tu montres ta volonté pour ma vie. Non, c'est au pied de Dieu, là, dans le lieu secret, qu'on peut entendre ce qu'il attend de nous, qu'on peut recevoir des directions pour nos vies. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je le redis aujourd'hui, les moments où Dieu m'a le plus parlé, c'est dans mes cultes personnels. L'appel au ministère, je l'ai reçu dans des cultes personnels. Beaucoup disent qu'il y a eu des prophéties et des choses comme ça. Moi, je les ai eues après pour confirmation. Mais la première inclinaison qu'il y a eu sur mon cœur, c'est dans des cultes personnels. Quand on cherche Dieu, il nous dit ce qu'il attend de nous. Amen. Et je vous invite à le faire. Peut-être certains passent à côté depuis des années. D'un appel à quelque chose de précis sur leur vie et continue, mettre au boulot dodo. Il faut que tu passes du temps devant Dieu pour savoir ce qu'il attend de toi. Peut-être que c'est tout autre chose que ce que tu vis aujourd'hui. Mais tu ne le sauras pas si tu ne prends pas le temps qu'il faut, parce que écouter Dieu, ça demande de prendre du temps. C'est le problème qui s'est posé au peuple d'Israël. Exode 32:1, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Et voilà. Ça a duré trop longtemps, cette affaire. Oui, mais Moïse, il a bien fait de prendre le temps. En fait, le peuple, il s'énerve alors que Dieu, il est en train de prendre le temps de donner toutes les instructions. Dieu, il n'est pas en train de se rouler les pouces pendant qu'il s'impatiente. Hein. Il est en train de travailler avec Moïse. Et toi, des fois, tu penses que Dieu ne fait rien, mais il est en train de travailler. Ne t'inquiète pas. Mais toi, cherche ce qu'il attend de toi. Dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12, regardez ce qu'il est écrit. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Vous savez la veille de quel jour c'est ? Non. Oui, il l'a fait aussi à Gethsémané. On ne sait pas si ça a été toute la nuit. Mais... C'est avant de choisir les apôtres. Oh, mais quand même, Jésus, il n'avait pas besoin. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus a pris le temps d'écouter son Père. Amen. Si lui, il l'a fait, est-ce que moi, je ne dois pas le faire ? Dans cette étude, depuis le début, nous avons évoqué le fait de rentrer dans le sanctuaire pour deux raisons. La première, contempler Dieu. La deuxième, écouter Dieu. Vous remarquerez qu'on n'a toujours pas évoqué le fait de parler. Bien sûr qu'on peut parler, on le verra quand tu es dans la présence de Dieu, mais ce n'est pas la première inclinaison du cœur. On a d'autres choses à faire quand on vient dans la présence de Dieu. On vient, bien sûr, il y a eu la repentance et tout ça avant, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on a expliqué pourquoi on arrive jusqu'au lieu très saint. S'il n'y a pas la croix, s'il n'y a pas la repentance et tout ça, le chemin, il n'y est pas. Mais à partir du moment où on a fait tout ça, toutes ces étapes, et qu'on a franchi le seuil du lieu très saint, eh bien, on n'est plus à parler et à faire notre liste de commissions, de besoins, je veux ci, je veux ça, et même les besoins spirituels. Seigneur, je veux davantage de sagesse, je veux davantage de ci. D'ailleurs, demandons-nous pourquoi on le demande à chaque fois. Mais je ferme la parenthèse. Mais simplement, si vous contemplez Dieu, on l'a vu, vous êtes transformés. Vous êtes transformés. La sagesse, vous la recevez, mes frères et sœurs. Oui ou non? Alléluia. Vous rappelez, année 2022, le leitmotiv de l'année 2022, revenir à la parole. Est-ce que vous en rappelez? Revenir à la parole. Est-ce que c'est ce qui a été fait? Moi, je ne crois pas, franchement. Je ne crois pas que le peuple de Dieu soit revenu à la parole. On ne prend pas le temps. On est débordé par nos emplois du temps. On dit, mais je n'ai pas le temps, pasteur. Non, tu ne prends pas le temps. Quand on veut quelque chose, on le fait. On prend le temps, on trouve le temps. Oui ou non? Donc ne me dites pas, je n'ai pas le temps. Je connais des gens qui ont énormément de responsabilités, mais qui sont là dans le lieu secret. C'est important ce que nous disons ce matin. C'est très important. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vais demander à l'équipe de louange de venir. On va chanter ensemble ce chant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Vous le connaissez ce chant, hein? Et dans ce chant, il est dit, c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Amen. Et un peu plus loin, il est dit, je viens, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Il est inspiré, celui qui a fait ce chant. Hein? Amen. Gloire à Dieu, qu'on puisse vivre ces choses, mes frères et sœurs. Alléluia, on le chante ensemble. Gloire à Dieu, alléluia, Jésus. J'aimerais qu'on le chante vraiment avec le cœur, pas seulement avec la tête, avec nos bouches, mais avec le cœur. C'est un engagement que nous prenons ce matin. Peut-être un nouvel engagement, une reconsécration. Seigneur, je veux réapprendre ou je veux apprendre. Personnellement, j'ai passé des années en tant que chrétien converti qui a donné sa vie à Dieu en passant à côté de tout ce que je suis en train de vous dire. Je servais le Seigneur, les gens étaient contents de ce que je faisais, je passais à côté. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Ne passons pas à côté. Amen. Alléluia, on prie ensemble au travers de ce chant. Alléluia, en ta présence, Seigneur Jésus. Près de Dieu, que je veux me tenir.
Il n'y a pas de filet microbe.
Roi, c'est auprès de Dieu que je voudrais sentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de moi. Alléluia. Je voudrais inviter ceux qui parmi nous ce matin ont envie de se reconsacrer, à s'approcher sur le devant pour qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais que ce ne soit pas juste un culte de plus, on a entendu quelque chose, mais que réellement on puisse prendre la décision, plusieurs d'entre nous ce matin, de reconsacrer nos vies à Dieu, non pas seulement dans des services, du temps que l'on donne, de l'argent que l'on donne, des choses que l'on offre au Seigneur, des sacrifices, mais qu'on puisse dire au Seigneur, je veux te reconsacrer ma vie dans le lieu secret, dans le culte personnel, dans le sanctuaire que tu veux que ma vie soit. En fait, tu as même pas à t'approcher de Dieu, à rentrer dans le sanctuaire. C'est ta vie le sanctuaire, puisque l'apôtre Paul nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le sanctuaire du Saint-Esprit. Approchez-vous encore sur le devant, on va prier ensemble. Alléluia. J'invite ceux qui veulent vraiment faire ce pas de foi, ne regarde pas ce que pensent les autres à côté. Oh, ne regarde pas le jugement qu'il peut y avoir, peu importe ce que les autres disent. Si tu ressens ce besoin de reconsacrer ta vie, d'avancer avec le Seigneur ce matin, alors approche-toi sur le devant. Approchez-vous encore s'il vous plaît, approchez-vous là ici et on va prier ensemble. Moi je crois que le Seigneur veut faire une œuvre dans l'église de Colomiers, de l'île Jourdain. Je crois qu'il veut nous amener plus loin. Il attend quelque chose de nous. Vous savez, je donne souvent cet exemple, une équipe sportive qui perd tous ses matchs, si elle ne change rien, elle va continuer à tout perdre. Et nous constatons qu'il y a peu de conversions, constatons qu'il n'y a pas les miracles qui viennent confirmer la parole. Il n'y a pas plein de choses auxquelles on aspire, mais on continue à faire tout et on ne change rien et on espère que ça va changer. Mais non, ça ne changera pas si nous, on ne change pas les choses. Et d'abord, si on veut changer les choses, ce n'est pas dire l'Église devrait faire, l'Église ceci, c'est d'abord moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur t'interpelle ce matin et il veut que tu reviennes devant l'autel, que tu reviennes dans le sanctuaire. Tu dis, Seigneur, je veux reconsacrer ma vie ce matin. Alléluia. On prie ensemble, les frères et sœurs. On prie ensemble. Toi qui t'es approché vraiment, approche-toi de Dieu et demande-lui secours maintenant. Nous croyons que le secours nous vient de l'Éternel. Notre chair ne nous pousse pas aux choses dont on a parlé ce matin. Ma chair ne me pousse pas à contempler Dieu. Ma chair, elle m'amène devant lui pour lui demander ce dont j'ai besoin. On va prier que le Saint-Esprit maintenant soit vainqueur sur notre chair. Amen. Ma chair me pousse à parler à Dieu. Elle ne me pousse pas à l'écouter. Et on veut prier que le Saint-Esprit descende maintenant ce matin pour que ce soit un changement de mentalité dans nos vies et qu'on s'approche de Dieu pour les bonnes raisons et pas pour des raisons égocentriques. Alléluia. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu bénis ces frères et sœurs qui sont approchés. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur ce matin? Alléluia. Dieu est vivant, il agit au milieu de nous. Vous qui vous êtes avancés, croyez et déclarez, parce qu'il y a aussi votre volonté qui va entrer en jeu maintenant. Prenez résolution d'avoir des temps de qualité avec le Seigneur. Amen. C'est ce que nous voulons, avoir ces temps de qualité. Hein, ne pas le mépriser. Hein. Ne pas le mépriser. Si nous réalisons qui il est vraiment, ce ne sera pas difficile de lui accorder ces temps dont on a parlé ce matin. Amen. Son nom soit béni.